France Inter. L'heure philo. Leur philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Élise Christophe à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Alors c'est une émission d'un genre un peu particulier aujourd'hui, et ce sera le cas périodiquement jusqu'au mois de juin, autour des sujets de philo du baccalauréat. Comment enseigner des notions comme la vérité, la conscience, le temps, la justice ou la liberté. Ça, c'est du côté des profs. Et comment apprendre, faire sien un savoir ancestral auquel on ne s'est en général pas frotté avant la classe de terminale. Ça, c'est du côté des élèves. Nous avons la joie d'accueillir la classe de terminale TG6 du lycée Lavoisier de Paris, ainsi que leur professeur de philosophie, Clara Da Silva, sans oublier Johanna Hocken, notre autre invitée, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences en philosophie de l'éducation à Nantes Université. Johanna Hocken est également une philosophe de terrain. Elle travaille avec de jeunes enfants, parfois dès l'âge de 4 ou 5 ans, en Seine-Saint-Denis, où elle anime des ateliers de philo. Et outre le plaisir que nous avons de vous recevoir, nous espérons être utiles à toutes celles et tous ceux qui vont passer le bac philo au printemps prochain, ainsi qu'à leurs parents. Mais d'abord cette question, à quoi ça sert la philo ? Tentative de réponse avec Thierry Pacaud.
Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Ben, c'est une curiosité, c'est le déclic, c'est d'être étonné, et du reste, les enfants, nous les connaissons bien sûr, c'est ceux qui sans cesse questionnent les adultes. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Etc. Et donc, dès qu'il y a cet appétit, cette quête de compréhension de quelque chose, alors, à ce moment-là, on fait de la philo. Et la philosophie, en terminale chez nous en France, c'est plutôt une histoire des concepts, une histoire des idées, plutôt que de faire philosopher ces jeunes lycéens de 17-18 ans sur leur manière de vivre. Parce que la philosophie, pour moi, c'est un art de vivre. Je n'oublie pas que Platon n'a pas d'un grec de philo, c'est pas ça le problème. C'est essayer de rendre finalement intelligible le monde dans lequel on est.
La philosophie, un art de vivre, nous allons revenir sur ce concept et voir si vous êtes d'accord ou pas. Clara Da Silva, Johanna Hocken, d'abord un mot pour nos auditeurs, parce que il faut qu'ils sachent qu'en fait, ben vous connaissez très bien, toutes les deux. Johanna, il me semble que Clara, ça la rajeunit pas, a été votre professeur il y a de ça une vingtaine d'années.
Oui, tout à fait. Je resterai toujours son élève, quelque part.
Elle vous a tout appris. Pourquoi est-ce que vous êtes prof de philo ?
Je suis prof de philo car je n'ai pas réussi à me détacher du plaisir de philosopher au fur et à mesure de mon parcours. Et parce que j'ai l'impression que c'est une pratique, la philosophie, à mon sens, qui permet d'atteindre un enjeu politique qui est de faire penser à chacun qu'il et elle est légitime pour penser.
C'est quelquefois difficile de savoir qu'on est légitime.
Exactement. C'est quelque chose qui est assez répandu, j'ai l'impression, dans notre société, de hiérarchiser les individus par rapport à leur faculté à penser le monde. Et si on ne s'autorise pas à penser le monde, on se destitue en tant que sujet politique. Et j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu de la philosophie. Et pour moi, c'est une discipline qui est en soi, du coup, politique.
Clara Da Silva, d'abord, bravo. Vous avez semé beaucoup de petits cailloux. J'imagine qu'il n'y a pas que Johanna Hocken qui vous doit beaucoup. Non, mais comme quoi, c'est important de le dire. Et là, je le dis pour les élèves qui sont autour de nous dans ce studio, qu'on va très, très vite entendre. Mais un professeur, ça peut être déterminant dans une vie, en fait. Clara.
Alors, sans doute, mais je pense qu'il y a cette espèce de, quand on est professeur, cette espèce de foi dans l'idée que on sème des choses qui prendront, qui ne prendront pas. Alors là, on a évidemment un exemple incroyable de floraison, d'efflorescence de Johanna. Mais voilà, ça, je pense que ça n'arrive qu'une fois dans une vie de prof de philo, quelqu'un qui ensuite s'empare. Et je l'ai senti très vite, en fait, quand je l'ai eu comme élève en terminale. Et ça m'a échappé, en fait. Enfin, je veux dire par là que ce n'est pas de mon mérite, c'est vraiment une rencontre qui a marché. Voilà, chez Johanna, je me rappellerai toujours la première réunion parents-professeurs où sa maman, avec un délicieux accent britannique, m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi elle est à ce point obsédée par Nietzsche. Vous lui avez donné un texte de Nietzsche, elle ne parle que de Nietzsche. » Donc vous voyez, en fait, ça m'a totalement échappé. Donc je ne dirais pas du tout que... Voilà, que le mérite m'en revient. Et Johanna a ensuite poursuivi sa voie bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. J'étais la première des professeurs, mais elle en a eu bien d'autres derrière moi.
Mais vous aimez enseigner. Je vous dis ça parce que c'est vraiment ce qui m'a frappé, ce qui m'a sauté aux yeux. Moi, je suis venue assister, puisque vous m'avez ouvert les portes de votre classe. Je suis venue assister à un de vos cours au lycée Lavoisier. Et vous êtes là comme un poisson dans l'eau parmi les élèves. Vous allez les... Je ne sais pas, ils vont nous dire après ce que eux en pensent. Mais quand même, si vous allez, y compris, c'était un lundi matin, il était 8h. Hein, donc bon, on ne peut pas dire que tout le monde ait été très très bien réveillé. Mais il n'empêche, vous allez vraiment les pêcher, les chercher, quoi.
Je ne dirais pas que je suis comme un poisson dans l'eau. En fait, c'est un métier comme le vôtre, comme tous les métiers. Ça demande un savoir-faire et puis une expérience. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours été très heureuse d'enseigner. Je dois le dire, il y a eu des moments difficiles dans d'autres lycées. Et puis, en fait, quand on est prof, on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est comme une mayonnaise qui peut prendre ou ne pas prendre. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe avec la classe qui est là aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une classe qui a eu un petit peu de mal à prendre au début. Et puis, je sens que la mayonnaise est peut-être, et encore c'est un pari, peut-être ça va changer dans une semaine, dans deux mois, peut-être ça va pas prendre, mais elle est en train de prendre et c'est très intéressant à regarder.
Johanna Cohen, est-ce qu'il n'est pas dommage quelquefois d'attendre jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la terminale où finalement on a 16 ans, 17 ans, 18 ans quoi, en terminale, pour commencer à faire de la philo? Alors je sais bien que pour Platon l'âge idéal pour être philosophe c'était 50 ans, mais enfin on peut se dire qu'on peut s'y prendre avant.
Oui, tout à fait, c'est tout l'enjeu du champ de recherche dans lequel je me trouve, donc la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents en amont de la classe de terminale. L'enjeu, c'est de dire qu'en effet, la philosophie, c'est peut-être avant tout une pratique de la pensée, un exercice intellectuel, une gymnastique qu'on peut, à laquelle on peut s'entraîner dès le plus jeune âge pour apprendre à conceptualiser, donc définir les grands concepts, pour apprendre à argumenter, à problématiser le monde. Et que ça, on peut le faire avant de s'atteler à la découverte des grands textes des philosophes qui, du coup, par leur grandeur et leur complexité, sont très intimidants. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est avant tout développer une posture de sujet pensant, qui est l'enjeu de la philosophie, pour ensuite être capable d'affronter la culture philosophique traditionnelle, entre guillemets.
Et après tout, même des concepts qu'on manie en philosophie peuvent être compris par un môme de 4 ans, de 5 ans. Il est puni, il trouve ça juste ou pas juste, par exemple.
Oui, ça peut être compris. Et même, Thierry Pacaud disait que philosopher, c'est penser notre façon de vivre.
Ouais, un art de vivre.
Voilà, c'est un art de vivre, mais c'est aussi réfléchir à la condition humaine. Or, la condition humaine, elle évolue. Et donc les jeunes, les enfants, les ados, ils ont quelque chose à nous apprendre sur la condition humaine que eux expérimentent et qui est peut-être différente de la nôtre. Donc il nous faut aussi avancer dans la compréhension des concepts, par leur pensée aussi.
Mais est-ce que la philo, ça peut être du loisir ?
Alors la philo, c'était du loisir. Chez les Grecs, on appelle ça la scolée. Le terme grec de scolée désignait la philosophie comme loisir et comme moment justement où on était libéré de toutes les nécessités de l'existence. Et ce qui a été très paradoxal, c'est qu'on a du coup scolarisé la scolée. C'est-à-dire qu'on a institutionnalisé la pratique de la philosophie qui était au départ une pratique de loisir et de liberté, et on l'a fait entrer dans l'institution scolaire.
Clara Da Silva.
Il y a quelque chose dans l'activité, dans la pratique de la philosophie qui ressemble à quelque chose comme du luxe. Et que c'est quelque chose qui est comme une sorte de trésor dont on peut s'emparer en terminale, parce qu'on n'en fait pas beaucoup. C'est comme une sorte de cerise sur le gâteau. Alors il ne faut pas que ce soit la dernière cerise sur le gâteau et que ce soit vécu comme quelque chose qui soit purement divertissant. Mais il y a cette dimension de luxe, c'est-à-dire de quelque chose auquel on accède une fois qu'on est libéré de tout le reste.
Voilà. Alors, il faut dire qu'on vous a pas encore entendu, toutes celles et toutes ceux qui sont là. Est-ce que, je sais pas, vous pouvez vous manifester d'une manière ou d'une autre? Dites-moi quelque chose, parce que vous êtes là tout silencieux, tout sage et tout. Je suis sûre que vous l'êtes pas autant en classe. Enfin, je le sais parce que je l'ai vu. Personne ne parle là. Jules, par exemple. Alors, au hasard, Jules qui est autour de la table, parce que vous êtes quand même quelques-uns. Il y en a qui sont assis par terre, il y en a qui sont debout au bout du studio, et il y en a qui sont autour de la table.
Bah, je suis vachement heureux d'être ici. C'est vrai que moi, j'ai eu quand même 2-3 contacts avec la philosophie depuis le début de l'année. Donc, j'en avais jamais fait. On me l'avait beaucoup vendu comme une matière où assez paradoxale, où c'est assez dur de comprendre les choses et quelque chose d'assez perché, en fait. Mmh. Et je trouve qu'au contraire, quand on est dans des petits groupes, donc on a une classe au Luxembourg, on fait de la philo-jardin.
Ouais, mais alors c'est génial, parce que le lycée Lavoisier à Paris, il est pas loin du jardin du Luxembourg, qui est une merveille de jardin quand même. Et alors vous allez effectivement faire de la philo au jardin avec votre professeur.
Exactement, on va en petits groupes se répartir un peu dans le parc du Luxembourg. Ça nous permet d'avoir un cadre un peu tranquille, entre amis, où on peut discuter des textes qu'on regarde. Et aussi de débattre, et Madame Da Silva, du coup, vient parmi nous et vient faire un peu le tour de nos idées et essayer de nous donner quelques pistes en plus. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, quand elle est là, venir et essayer de la contredire un maximum. C'est mon petit plaisir personnel. Et c'est assez intéressant, parce qu'en fait, les textes qu'on étudie nous donnent des clés pour essayer d'argumenter et de contre-argumenter. La philosophie, qui est de se poser des questions plutôt ouvertes, ça permet justement de venir et de dire « je suis pas vraiment d'accord » parce que d'une certaine manière, d'autres personnes ont dit le contraire et je pense que le propos est à nuancer.
Ouais, mais c'est nuancer et écouter l'autre aussi, c'est important. Parce que j'espère, est-ce que vous me permettez tous, je vous ai posé la question avant qu'on commence l'émission, donc je sais que c'est oui, mais je vous tutoie, parce que moi vraiment, vous vous voyez, j'ai pas envie. Bon, est-ce que tu contraries ton professeur à dessein, ou est-ce que tu le fais de manière automatique, parce que peut-être que chez toi aussi, t'es un peu comme ça avec tes parents, j'en sais rien.
Bah si, c'est par esprit
c'est
de
pas
contradiction.
Une question... Ouais, mais c'est une question de principe ou...
Non, c'est pas une question de principe de faire chez ma prof, c'est plus... Se dire.
Tu sais que t'es sur France Inter, ici, il y a quand même des mots qui sont.
Pardon.
Non.
C'est pas prie. Dans l'idée d'embêter ma professeure, c'est plus dans l'idée de débattre et de voir les choses sous un angle qui est différent, comme quand elle vient et qu'elle nous donne justement de nouvelles pistes. J'aime bien parce que ça permet d'explorer d'autres possibilités et de complémenter un peu le propos.
Alors Clara Da Silva, avec vos élèves, vous avez donc abordé un premier sujet du bac. Ce sujet, c'est
le bonheur. Enfin, c'est une notion plus qu'un sujet.
Voilà.
Il faut bien distinguer ça.
Très bien.
Si les parents nous écoutent, c'est qu'il y a 17 notions au baccalauréat et des sujets de bac qui sont donnés. Deux sujets de dissertation, un sujet d'explication de texte. Parce que quand on entend comme ça qu'on fait de la classe dehors, alors ça correspond à une vraie nécessité, à un vrai projet chez moi et d'une vraie réflexion sur mon enseignement, je voudrais pas qu'on pense qu'on n'est pas rigoureux. C'est-à-dire qu'on apprend aussi à expliquer des textes, on apprend à dégager des problématiques, on apprend à construire des problèmes. Et là-dessus, je suis un petit peu old school aussi sur la question des méthodes. Donc, mais c'est vrai qu'on a commencé par le bonheur.
Eh bien, nous allons revenir avec vous, grâce à vous, sur cette notion du bonheur dans leur philo. SCH 2001.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mot. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smica. À mépris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. En t'info 3, 8, on dit l'eau, on braque. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. Je vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16, dans un futal en velours, à siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prise classe. La crâne bien défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante, quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse, je fais des sourires aux camés. Je rêve de quartier, bois, je rêve de palais comme les damnés. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mort. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mort. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril, j'ai la libé avant le mobile.
Vous écoutez L'Heure Philo sur France Inter, émission consacrée aujourd'hui au sujet philo du bac. Invité d'honneur, la classe de terminale TG6 du lycée Lavoisier à Paris, leurs professeurs Clara Da Silva et Johanna Hocken, qui enseignent également la philo à l'université de Nantes et en Seine-Saint-Denis, où cette fois elle anime des ateliers philo pour les enfants. Premier sujet choisi, donc on en parlait tout à l'heure, qui est, je le rappelle, au programme du baccalauréat. Premier, pas sujet, non, c'est quoi, vous m'avez dit ?
Notion.
Notion, le bonheur.
Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce qu'être heureux ? Alors, Platon répond, mais chacun pourrait répondre la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Alors, pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on sera jamais heureux. Mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, bah, tu ne désires que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire.
C'est bien compliqué. André Comte-Sponville, donc, qui ouvre cette partie de l'émission. Elisa, c'est pas un cadeau que je te fais, mais bon, tant pis, tu vas t'y coller. Quand André Comte-Sponville dit « le bonheur, c'est avoir ce que l'on désire », est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que tu es d'accord ou pas avec cette conception-là ?
Je suis assez d'accord que... avoir ce qu'on désire, ça peut créer du bonheur, mais je pense pas que ce soit l'intégralité du bonheur qu'on peut avoir d'assouvir ses désirs.
Qu'est-ce que ce serait que l'intégralité du bonheur, alors ? Ah, mais non, mais c'est très difficile, des questions très difficiles.
Je n'ai aucune idée. Je ne saurais pas dire ce que c'est l'intégralité du bonheur.
Adriana, est-ce que tu saurais dire ?
Alors pour moi, chercher le bonheur, donc chercher l'intégralité du bonheur, ce n'est pas... être heureux, et il faudrait juste vivre. Et pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui vous arrivera et vous direz « Ah, là, je suis heureux ». Mais c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est pas une quête à avoir.
Tu veux dire que le bonheur, ça peut se reconnaître ?
Le bonheur, ça peut se sentir, selon moi. On peut se dire « Là, en ce moment, je suis heureux ». Et pourtant, on n'était pas en train de chercher à devenir heureux. Tout bêtement, on se le dit comme ça.
Ça surgit ?
Ça surgit.
Ça n'est pas une question de volonté.
Pas forcément. Alors on peut aller chercher des choses qui vont nous rendre heureuses, mais au final, on ne sait même pas si ça nous rendra vraiment heureux. Donc, pour moi, c'est pas une quête, le bonheur.
Amandine.
Je pense que déjà, tout le monde a une définition différente du bonheur. On ne peut pas donner une définition du bonheur, car si une personne aime... faire quelque chose, mais qu'une autre personne n'aime pas, ce sera pas la même définition. Et on a vu aussi en cours que y a des gens qui peuvent être heureux par le simple fait de désirer quelque chose et pas avoir la chose en soi.
C'est pas forcément d'obtenir l'objet du désir qui fait que on va être heureux. C'est le fait de le désirer.
Exactement.
Quelle sagesse ! Non, mais c'est l'ambition de toute une vie, Monsieur Jules. Il veut bien répondre, le garçon.
Tout à l'heure, on corrèle le bonheur au désir. Mais après, ça me fait penser à la notion que j'ai vue l'année dernière avec le bac de français, d'une vie de bohémien, de personnes qui se contentent de ce qu'ils ont, d'une vie d'artiste, et qui sont heureux par le fait de vivre. On n'est pas forcément heureux par l'accomplissement de ses désirs ou par la recherche de ses désirs, mais peut-être aussi par, des fois, le fait de vivre.
Et j'aimerais rajouter que, mais que pour moi, le bonheur, pour l'atteindre, il faut connaître des épisodes malheureux pour savoir différencier donc le malheur du bonheur.
Moi, je suis scotchée. Clara, Silva, je ne sais pas, Johanna Hocken, je ne sais pas dans quel état vous êtes. C'est scotchant parce que on pourrait sur chacun des points là qui ont été soulevés.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
Il y a tellement de choses. Clara.
Et moi, ce qui me frappe, c'est ce que Adriana disait sur la question de cette dimension de la chance. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a quelque chose dans la rencontre du bonheur qui peut se faire sur la question de l'accident, hein, de ce qui n'était pas prévu. L'accident au sens neutre du terme. C'est-à-dire, et dans la notion même de bonheur, on a vu qu'il y a la possibilité, enfin, il y a cette question de l'heure. H-E-U-R, hein, c'est-à-dire de la chance, qui peut être une mauvaise chance aussi. Donc il y a quelque chose dans cette conception du bonheur dont a parlé Adriana qui est intéressante parce que, justement, il y a l'idée d'une rencontre ou d'un supplément de quelque chose qui vient un petit peu en plus.
Johanna Hocken.
Oui, et effectivement, c'est très intéressant ce qui a été abordé. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux choses qu'on pourrait distinguer dans ce qui a été proposé. J'ai l'impression qu'on pourrait distinguer l'expérience d'être heureux ou de se sentir heureux et le bonheur comme cette image, cet idéal que l'on souhaite atteindre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui était évoqué, ce que tu évoquais, oui, de dire des fois on le ressent à un moment, c'est une expérience, c'est un ressenti. Et c'est pas, ça correspond pas à cette représentation du bonheur qui est en fait un concept de l'imagination. Et c'est important parce que du coup, cette expérience du bonheur, ce ressenti, peut-être qu'il ressemble au ressenti du contentement dont vous parliez. Il y avait cette idée de... Oui, je crois que c'était Jules qui disait que on peut être dans le contentement. Et quand on assouvit un désir aussi, on a cette sensation de contentement. Et donc peut-être qu'il y a une similitude entre la sensation de contentement et la sensation du bonheur. Ces deux expériences, elles se confondent parfois, mais en tout cas, elles sont différentes du concept du bonheur, cette représentation idéale, idéelle.
Mais là, on revient aussi, Clara, à ce qu'il faut enseigner pour le bac, justement, c'est qu'il y a différentes façons de concevoir ce bonheur, que le bonheur, ça peut être la joie, ça peut être le plaisir, ça peut être effectivement le contentement, la béatitude, ça peut être une vertu, ça peut être un souverain bien, ça peut être une utilité, là, c'est une vision plus altruiste du bonheur. Il y a tout ça dans la conception du bonheur.
Il y a tout ça, et je pense qu'une des vertus de la philosophie, pour revenir à cette question de la pratique de la philosophie, c'est aussi d'arriver à caractériser et à procéder à ce qu'on appelle des distinctions conceptuelles. Et je pense que c'est en faisant des distinctions conceptuelles, en identifiant des concepts distincts, c'est-à-dire en les séparant, que tout d'un coup la pensée se met en mouvement. Et qu'en effet, on parle de l'expérience et on la confronte avec la question du concept, de l'imagination, qu'on a évoqué juste hier en philo-jardin avec le texte de Kant, hein, sur cette idée que, en fait, c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il est trop varié selon les personnes.
Un autre élève de votre classe qui s'est mis debout, donc je pense qu'il a pris un micro, donc je pense que c'est ce qu'il veut parler. Pascal, c'est à toi, on t'écoute.
C'est juste pour dire que Adriana, par exemple, tout à l'heure, t'as soulevé un point que je trouve qui est pas forcément juste. T'as dit que pour atteindre le bonheur, faut passer par une période de malheur, mais c'est pas forcément le cas parce que quelqu'un dont le bonheur se constitue uniquement de plaisir, et ça arrive, il y a certaines personnes qui, pour atteindre le bonheur, c'est uniquement du plaisir. Mmh. Bah, s'il passe par cette période de malheur, il va pas atteindre son bonheur. Il va juste devoir se contenter d'un bonheur partiel, ce qui est pas forcément son objectif. Quelqu'un, par exemple, qui veut atteindre un bonheur simple, par exemple, même le fait de se réveiller, pour certains, c'est un bonheur. Mmh. Ceux qui sont malades, qui subissent des choses compliquées. Je vais pas dire que j'ai jamais connu le malheur, j'ai eu des périodes de déception ou de tristesse, mais c'est pas le malheur, le vrai en tout cas, c'est pas quelque chose que quelqu'un doit nécessairement vivre pour atteindre le bonheur. Parce que finalement, si on disait ça, ça veut dire que pour chaque bonne chose, il faudrait subir une mauvaise chose en contrepartie. C'est comme si en fait on disait oui, pour que t'atteignes tous les objectifs de ta vie, il faut que tu sacrifies tout. Alors, tout ce que t'as, tout ton passé, ta famille, tes amis, toutes tes études. Tu dois tout oublier pour juste atteindre le bonheur que, du coup, t'as recherché en faisant tout ça. c'est pas forcément une bonne chose, du coup.
Est-ce que je peux te poser une question, Pascal? Est-ce que tu avais déjà fait de la philo avant d'arriver en terminale, ou est-ce que c'est une découverte
non,
pour toi?
Non, je séchais beaucoup trop les cours. Alors,
ah, tu sèches les cours? Mais là, maintenant, tu les sèches plus? Pourquoi tu séchais les cours?
Bah, honnêtement, après, moi, je vais pas vous cacher que les études, c'est pas forcément une passion. Genre, c'est pas un truc qui m'intéresse assez pour que je sois assez présent. Ça arrive à certains élèves, il y en a qui sont capables, du coup, de passer outre, mais moi... quand ça ne m'intéresse pas, du coup, je ne viens pas forcément.
En tout cas, aujourd'hui, tu es là et tu es bien là et on t'en remercie. Merci, okay. Pascal.
Merci.
Alors, pour revenir à ce que, justement, disait Pascal, est-ce que quelqu'un veut réagir ou Clara ou Johanna ou un des élèves?
En tout cas, on voit apparaître une autre vision du bonheur. Hein. Il y avait le bonheur comme l'assouvissement du désir, le bonheur comme se contenter de ce que l'on a. Et là, il y avait l'adéquation entre le bonheur et le plaisir, ce qui est historiquement une vision qui a été portée notamment par les utilitaristes, de créer cette adéquation entre bonheur et plaisir, et aussi chez les utilitaristes, entre plaisir et utilité. Donc ça, c'est un élément important qui est très présent dans notre culture. Ensuite, le point commun entre le bonheur comme plaisir et le bonheur comme assouvissement du désir, c'est le fait que c'est évanescent, que ça disparaît immédiatement. La question est de se demander si c'est un fondement adéquat pour le bonheur, pour qu'il soit stable.
Mais le fait qu'il y ait comme un besoin de contraste entre le bonheur et le pas bonheur, je ne sais pas s'il faut appeler ça le malheur, enfin bon, quelque chose qui ne soit pas équivalent au bonheur, ce contraste-là, est-ce qu'il faut l'éprouver, le vivre, le conceptualiser pour mieux se rendre compte de ce que c'est que le bonheur? Est-ce que la comparaison vous permet de mieux cerner les choses? Vous avez le temps de réfléchir hein, avant de répondre.
Peut-être que, en tout cas, je suis ravie que Pascal a un avis différent du mien, parce que du coup, ça me permet de remettre moi-même en question mes propos. Peut-être que je ne sais pas exactement ce que j'ai voulu exprimer en disant qu'il y avait un contraste entre le malheur et le bonheur, mais beaucoup de gens sont témoins que dans une vie, il y a beaucoup d'épisodes de tristesse, pas forcément de malheur, mais voilà, la vie n'est pas remplie de bonheur. Et peut-être que c'est même après donc ces épisodes de malheur, faut pas forcément les connaître, mais c'est peut-être après qu'on réalise à quel point avant c'était le bonheur ou à quel point maintenant c'est le bonheur. Peut-être en comparant les deux, mais je suis en accord avec Pascal, il faut pas forcément vivre le malheur pour connaître le bonheur.
Mais est-ce que l'expérience de la vie vous aide dans l'appréhension du bonheur? Pascal disait tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui est pas bien, qui est malade, etc., le simple fait de se réveiller et de voir le jour se lever, par exemple, c'est un bonheur. Et puis quelquefois, quand on est préoccupé par d'autres choses, on n'y fait même pas attention. Jules?
C'est vrai que là, on soulève beaucoup la question de la temporalité. Et donc, on se fait une rétrospection de nous-mêmes pour voir le bonheur et voir où est-ce qu'on a eu du bonheur, notre situation actuelle, et en faire un bilan. Mais après, la plupart du temps, on ne s'en rend pas vraiment compte. On vit dans le présent. Et c'est vrai qu'on vit en partie en nous projetant, en cherchant des désirs, en essayant de les accomplir. Et on n'a pas forcément ce regard rétrospectif de se dire « actuellement, je suis heureux ». Certes, il y a eu des petits hauts et des petits bas, mais si on prend la fourchette, l'écart, globalement, je suis heureux.
Il y a un terme qui est revenu plusieurs fois, c'est « se rendre compte qu'on est heureux ». Et on voit bien qu'il y a un décalage entre la conscience du bonheur, je suis heureux à ce moment-là, est-ce que j'en ai conscience, et l'expérience du bonheur. Et c'est ce décalage entre la conscience du bonheur et l'expérience du bonheur qui est un peu fourbe quelque part. Le bonheur, c'est fourbe, quoi. On est heureux, mais on s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience, c'est quand même fou.
Et puis, il y a aussi, peut-être, ce qu'on a évoqué ensemble hier, juste hier, cette espèce aussi d'injonction au bonheur dans laquelle on peut vivre. Hein, c'est-à-dire, il faudrait être toujours heureux, il faudrait être toujours en forme, il faudrait toujours être en bonne santé. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui de santé mentale, notamment de santé mentale des jeunes. Et en réalité, hier, on se disait, mais finalement, la santé mentale... ça n'existe pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est une sorte d'idéal, sans doute aussi de l'imagination. Ça veut rien dire. On est toujours dans ce qu'on a appelé hier, vous vous rappelez le terme, on avait dit une assiette. On cherche toujours une sorte d'assiette, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une forme de déséquilibre et d'équilibre recherché. Et c'est cette espèce de jeu d'équilibrisme, peut-être, qui constitue l'existence. Donc, en effet, le bonheur est nécessairement un peu rétrospectif, ou en tout cas renvoie à cette difficulté d'en prendre conscience.
Mais je trouve ça très intéressant de vous entendre sur ce sujet-là en particulier, parce qu'on dit, alors on dit en général, les médias disent, il y a certains livres aussi évidemment qui en parlent, qui parlent du désenchantement de, justement des jeunes, de votre génération. C'est-à-dire avec, bon, il y a eu le passage de la Covid, il y a les difficultés diverses et variées auxquelles vous êtes confrontés, là, je ne sais pas, des questions monumentales quant à votre avenir, est-ce que vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire. Tout ça, est-ce que c'est finalement des ruisseaux qui charrient une boue pas forcément très, très, très marrante pour vous ou est-ce que votre bonheur, c'est pas où d'ailleurs, c'est et est-ce que le bonheur peut être déconnecté de ce genre d'angoisse et d'aspect un peu pas marrant du tout de la vie?
Je pense que, en fait, je trouve qu'actuellement, pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pression avec les médias, notamment. Et que, en fait, pour moi, le bonheur, c'est aussi être en paix avec soi-même, pouvoir être mentalement stable. Et en fait, ce trop d'informations va nous stimuler et nous empêcher d'être dans cet état de calme et de paix intérieure. Mmh. Donc je pense que c'est surtout un surplus d'informations et d'anxiété qui entrave le bonheur.
Donc il faut essayer de s'extraire du contexte.
J'ai l'impression que la question qu'on touche ici, c'est finalement comment aller bien dans un monde qui va mal, autrement dit, comment être heureux dans un monde difficile ou comment être en paix dans un monde en guerre. Est-ce que du coup, notre bonheur individuel dépend de l'état du monde? Ou est-ce que pour être heureux, il faut se retirer du monde et trouver cette paix intérieure en soi-même?
Ornella, est-ce que tu veux bien dire quelque chose? Tu as pris un micro.
Moi je suis assez d'accord avec vous, Johanna, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec toutes les guerres et tout, quand on essaye d'être le plus informé possible pour être le plus lucide et le plus lucide par rapport à la situation, au final... ça peut nous mettre mal nous aussi, et du coup il y a une distance qui est très difficile à trouver entre être suffisamment informé pour pas être ignorant, et parce que je pense que si on est ignorant, ça peut aussi quelque part nous ramener le malheur, en tout cas voilà, mais si on y est trop proche aussi, ça peut vraiment nous plomber le moral, quoi. Donc il faut trouver cette distance qui est compliqué, je pense, à trouver.
Et c'est un exercice quotidien ?
Ouais, complètement. Écouter les nouvelles, pour moi, c'est un besoin, mais à la fois, j'ai du mal à prendre de la distance, donc voilà, c'est un exercice.
Mais est-ce que précisément l'étude de texte ou de ça peut t'aider ?
Oui, ça permet de se questionner, de trouver peut-être des réponses ou ouvrir encore d'autres questions.
Clara da Silva.
Oui, je voulais simplement reprendre ce qu'a dit Ornella, c'est que ce qui est compliqué, alors je reparle de ma posture d'enseignante, mais c'est aussi de considérer qu'on c'est pas, nous sommes pas des adultes d'une certaine manière en surplomb, qui venons au secours d'adolescents qui iraient mal. La question, c'est qu'en fait, dans un monde qui va mal, comme le dit Johanna, c'est exactement une communauté de destin. Nous partageons la même éco-anxiété, nous partageons le même sentiment d'injustice par rapport à des conflits qui se passent ailleurs. Nous partageons le même sentiment d'injustice par rapport à des injustices sociales qui se passent sous nos yeux. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver ensemble. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'être tous ensemble, mais d'arriver ensemble. Alors l'enseignant, il a une mission, bien sûr, ce qui est aussi de protéger les élèves et de faire en sorte qu'ils se sentent le moins mal possible. Mais nous partageons cette sensibilité. Et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus important à souligner, c'est que c'est ensemble qu'on peut trouver aussi des moyens de résister au malheur.
Ensemble, c'est pas mal, ça me... on est preneur. Ouais. L'heure philo sur France Inter.
Hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find a flame with someone new. Ooh. Oh, make it all about me. You won't find love like this. You can search high and low, but you
sur France Inter, d'un genre un peu particulier aujourd'hui, puisque nous consacrons l'émission à un des sujets du bac, le bonheur, on commence bien. Invité d'honneur, la classe de terminale TG6 du lycée Lavoisier à Paris, ainsi que leur professeur Clara De Silva, et la philosophe qui est aussi enseignante de philosophie, Johanna Hocken. Peut-être que le nerf de la guerre, je dirais que ce qui est le plus difficile quand on étudie la philo, quand on commence comme ça, qu'on débarque dedans, c'est les textes. Parce que les textes, ils sont difficiles, non, Clara De Silva ?
Oui, les textes de philosophie, incontestablement, ce sont des falaises qu'il faut arriver à escalader sans se blesser. Et je vois mes élèves au Pinet du Chef parce qu'ils ont fait leurs griffes lundi dernier, donc premier texte d'Aristote de l'éthique à Nicomaque. Et c'était important qu'ils s'exercent. C'est un exercice, la philosophie. Donc il faut reprendre la falaise, il faut trouver tous les moyens pour trouver les bonnes prises. Et ça demande de l'exercice. Donc ça demande, un texte de philosophie, ça demande à être lu plusieurs fois. C'est forcément difficile d'accès, forcément. C'est rarement facile d'accès.
Prendre son temps, parce que, évidemment, il y a des exercices pratiques qui les forment et qui leur permettra de réussir leur épreuve au moment du bac philo. Il faut prendre le temps de s'imprégner d'un texte, de le lire, de le relire, de le faire sien.
Oui, tout à fait. Le premier conseil absolu, c'est qu'un texte de philosophie, ça se lit au moins 3 fois. Dans un premier temps, et ça je leur ai bien expliqué, dans la méthode de l'explication de texte. Voilà, il faut commencer par s'en imprégner, par essayer de comprendre véritablement le point où l'auteur veut nous emmener. D'une certaine manière, c'est plus facile qu'un texte de français, parce que justement, enfin qu'un texte étudié en littérature, parce qu'en philosophie, il y a nécessairement un point d'arrivée, hein, ce qu'on a appelé un terminus ad quem en latin, c'est-à-dire on va quelque part. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plus simple. Mais le contenu est forcément un peu difficile d'accès. Et donc, il ne faut pas se décourager. Il faut accepter de ne pas comprendre également. Moi, je le dis souvent. Et moi-même, j'avoue, hein, quand je découvre les textes du bac ou quand je leur donne un texte, je me dis, oula, première réaction, c'est quand même un sentiment de difficulté. Et ça, j'ai beau être professeur de philosophie depuis presque 30 ans maintenant, j'ai toujours ce sentiment de difficulté. Donc, de cela, il ne faut pas s'étonner d'une certaine manière.
Oula, ben, précisément, on va écouter un extrait d'un texte de Kant sur le bonheur, tout le monde sourit, que l'IASM a eu la gentillesse de lire pour nous. L'IASM, je dis pour ceux d'entre vous qui êtes là et qui ne la connaissaient pas, elle est écrivaine et elle est aussi productrice d'une émission sur la littérature à France Inter.
Le concept du bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur ensemble empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience. Et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire.
Alors j'ai ça en face de moi, Clara da Silva, qu'est-ce que j'en fais ?
Alors évidemment, maintenant qu'on a un peu défriché la question du bonheur, ce texte peut-être vous paraît plus articulé. Mais le lire pour la première fois, c'est difficile.
Mais justement, alors on va vous demander, je vais vous demander à vous qui êtes autour de la table, de nous dire, de nous donner votre première impression à la lecture de ce texte. Qui veut parler ? Alors, c'est Nathan, c'est ça ? Non.
Eugène.
Eugène.
Donc c'est sûr que quand on lit pour la première fois un texte de Kant, ça paraît très difficile. Après trois lectures, ça paraît plus clair. Et moi, ce que j'en ai retenu de ce texte, c'est que bien sûr, la question du bonheur, elle est complètement propre à chacune, parce que c'est basé sur l'expérience de chacune, de chacun. Mais quand on parle des sensations du bonheur, c'est sur ce point-là que les sensations sont universelles. Chacun peut ressentir la même chose quand on parle de bonheur, mais quand on parle de bonheur propre, les attentes de chacun sont complètement différentes, donc on peut pas se baser sur une définition unique.
C'est intéressant ce que tu viens de dire sur l'universalité, parce que moi c'est une question que j'avais envie de vous poser. Quand vous lisez un texte de Kant, qui est un texte ancien, quand vous lisez Épicure, c'est quand même quelqu'un qui a vécu, je ne sais plus, c'est 300 ans avant Jésus-Christ, hein, donc le contexte n'était pas vraiment le même pour lui, la vie n'était pas la même. Est-ce que quand même, malgré tout, ça fait tilt dans votre tête, hein, est-ce que vous vous dites, mais là oui, bien sûr, je pense la même chose que lui, ou bien non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que ça vous parle, comme on dit aujourd'hui ? Qui veut, Alice, je ne sais pas, qui veut parler ?
Moi, après avoir entendu ça, pour moi, Kant, il veut dire que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut et ce dont on a besoin pour être heureux, et que pour être heureux, il faut savoir, il faut se baser sur ce qu'on a déjà vécu et sur ce qu'on sait qu'on aime, et que c'est compliqué en fait d'identifier ce que peut être le bonheur pour nous. Et c'est vrai que moi, ça me parle un peu, parce que c'est vrai que on sait jamais vraiment si on est heureux, si on va l'être, et ce dont on a besoin finalement.
J'ouvre une parenthèse avec toi, Alice, si tu le permets, mais tu as commencé la philo cette année, ou bien tu avais déjà fait de la philo hein ?
Moi, j'avais la spécialité HLP l'année dernière, donc j'avais déjà commencé la philosophie. Ça fait 2 ans du coup que j'en fais.
Et tu penses que c'est bien de commencer tôt ?
Je pense oui, parce que l'année dernière, c'était vraiment différent de ce qu'on fait cette année, je trouve. C'était vraiment pas le même type de philosophie. On était en plus petit groupe aussi, donc il y avait plus de discussions avec Madame da Silva. Et cette année, c'est vrai qu'on rentre dans la philosophie, vraiment la matière. Donc c'est vrai
dur.
C'est plus dans les textes, plus dans c'est plus une réflexion. Je trouve qu'il y a un peu moins de débat entre nous. Et voilà.
D'où l'intérêt de commencer, hein, Johanna O'Kane.
Dès l'âge de 4 ans.
Dès l'âge de 4 ans. Il bon. Y a Pascal qui veut intervenir. Il y a aussi Lindia, Myriam. Bon, alors, allez, vas-y, Pascal.
Du coup, je crois que si je comprends bien, selon Kant, le bonheur, c'est un voyage, c'est pas une destination. En gros, on construit notre bonheur grâce à toutes nos expériences passées. On peut pas atteindre le bonheur si on n'a pas vécu une certaine période. Pour Kant, le bonheur, le vrai, je pense que ça se construit sur le temps. Et un enfant, il peut pas être réellement heureux. C'est un truc que je comprends pas trop personnellement. Pourquoi on peut pas être heureux si on n'a pas fait un long trajet ? Je sais pas comment expliquer.
Alors là je vais faire la prof de philo un peu. Bon, mais il faut que je reprenne un peu des choses. Mais c'est vrai que ce texte-là, en fait, c'est pour ça que c'est important de venir en cours. C'est pas... En fait, ce texte-là, il nous montre que le bonheur, entre guillemets, n'est qu'un idéal de l'imagination. C'est-à-dire que on ne peut pas, comme l'ont dit les camarades là, le bonheur a un contenu qui est aléatoire. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de boire un café, et puis tout à l'heure je voudrais faire autre chose, et puis je voudrais être reconnue ou avoir la Légion d'honneur demain. Enfin, donc en fait je ne sais pas exactement quel est le contenu du bonheur. Et donc c'est un concept qui n'est pas fiable. C'est ça que nous dit Kant, c'est que on peut pas avoir confiance en quelque sorte dans ce concept. C'est comme s'il était un peu vide. C'est comme si c'était une coquille un peu vide. En revanche, il y a d'autres choses. Il le dit dans la suite du texte. C'est pour ça qu'il faut le lire jusqu'au bout. Il y a d'autres choses qui sont pour Kant fiables. Et la seule chose qui soit vraiment fiable pour Kant, à laquelle on puisse vraiment faire confiance, c'est la question du devoir. Ça, il y a pas de discussion.
Moi, ce que je vois, c'est que les textes, ça peut paraître effrayant au début, parce que c'était souvent des textes assez anciens, donc avec des écritures assez... Enfin, c'est vraiment une langue très riche. Au début, moi, ce que je vois quand je suis en évaluation, c'est quand je lis au début le texte, je suis un peu angoissée, parce que c'est très compliqué. Et à chaque fois, en le relisant, on comprend en fait qu'il y a vraiment des notions qui sont intemporelles, et qu'en fait, ce que veut dire le philosophe, ça vaut pour tout le monde, et ça vaut encore pour nous aujourd'hui, même si ça a été écrit il y a des siècles. Et je trouve que c'est très intéressant parce que on voit que un philosophe peut avoir dit quelque chose et qu'en fait ça traverse les âges et ça reste intemporel.
Eugène, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Moi, je suis d'accord parce que en philo, c'est sûr qu'on commence en fin de lycée, mais c'est le moment où on commence à grandir et à réfléchir à des choses que on n'avait pas l'habitude de réfléchir avant quand on était petit. On grandit de notre expérience, on devient plus mature et surtout ça nous aide pour l'après, pour même pour les études supérieures, etc. On arrive à prendre du recul sur certaines choses et donc ça nous aide à avancer.
T'es en train de nous dire que ça c'est en train de t'aider dans la vie ?
Oui, certaines choses peuvent m'aider en philosophie, même s'il y en a qui sont abstraites. Mais par exemple, la question du bonheur, ça nous aide à savoir si, à l'heure actuelle, on est heureux, si ce qu'on a fait auparavant, on l'a fait simplement parce qu'on était obligé ou parce qu'on était heureux de le faire. Et donc, je trouve ça bien de réfléchir sur notre passé.
Est-ce que vous avez l'impression, quand vous parlez les uns avec les autres, et notamment quand vous êtes précisément, quand la philosophie se fait hors les murs du lycée, quand vous allez vous promener dehors et que vous faites des petits groupes, est-ce que vous avez l'impression de vous écouter différemment les uns les autres et de vous parler différemment que si vous êtes autour d'un café les uns avec les autres ? Est-ce que c'est différent ?
Ah, forcément, on va prendre position, on va chercher...
À argumenter.
Avoir une réflexion, à argumenter, ouais. À essayer de convaincre l'autre. Mais en même temps, on est aussi dans cet état d'esprit de reconnaître ce que l'autre dit et pas de faire de concessions parce que des fois, c'est des sujets qui sont vrais et des propos qui sont vrais pour les deux. Donc, c'est vraiment un enrichissement non seulement de sa culture personnelle, mais aussi de sa capacité à débattre.
Clara da Silva ?
Moi, je voudrais juste reprendre ce point parce que la philosophie, la classe de philosophie, c'est pas non plus une classe de débat. Hein, mais c'est ce qui est important de comprendre à travers la discussion, la conversation philosophique, c'est aussi d'apprendre à penser contre soi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire l'autre pense différemment et la prochaine fois, je serai seule devant ma feuille et il faudra que je sois moi-même comme un autre. C'est-à-dire que je prenne, on travaillera ça plus tard, la dissertation, mais que je prenne à la fois ce parti-là, et puis ensuite que j'arrive à soumettre ce que je viens de dire à un feu critique, que j'adresse à moi-même. Et c'est ça la grande difficulté, qui crée une brèche à l'intérieur de soi.
Ben c'est sur ces paroles qu'on va se quitter, puisque malheureusement, moi je continuerai bien avec vous, je vous assure. Merci en tout cas à toute la classe donc du lycée Lavoisier de Paris. Bonne chance pour les épreuves à venir, puisque le bac c'est dans quelques mois, mais enfin quand même ça va arriver. Merci à Clara De Silva, votre professeure. Je crois que vous avez le cœur qui bat un petit peu plus vite. Hein. À partir, elle fait plein de cœur, là, elle est très... Vous êtes contente de vos élèves, hein. Ah bon, elle se touche le cœur. Jeanne Hocken, merci beaucoup à vous également. À la semaine semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Heure Philo et à très vite pour une réflexion autour des sujets du bac philo avec une nouvelle classe.